Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à tous, merci à tous d'être connectés et de suivre cette session que nous jugeons complètement essentielle à l'entrée de l'été. Je remercie tout particulièrement les intervenants qui ont accepté de venir témoigner et parler de la sobriété ce matin et des actions à engager pour répondre aux objectifs de sobriété. Donc je remercie Séverine Truxès, chef de projet efficacité énergétique au ministère de la Transition énergétique. Guillaume Creuset, il y a un micro ouvert. Merci. Guillaume Creuset, en charge de la cellule mobilisation des entreprises à l'ADEME. Gilles Cotte, directeur du développement des Coins, et Isabelle Barbeau, responsable au développement des nouveaux business chez Coins également. Et Patrick Logier, qui est vice-président du SNEC à la FEDEN. Donc le SNEC, Syndicat National des Exploitants de Chauffage.
Voilà, pour résumer, c'est ça.
Merci. Bon. Voilà, je pense que ça mérite pas que je prenne la parole plus longtemps. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on prendra évidemment les questions à la fin de la session pour établir un échange un peu plus convivial. Merci à vous et je cède tout de suite la parole à Séverine Truxès. Merci Séverine.
Oui, merci Madeleine. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureuse d'introduire ce webinaire et je remercie grandement le MEDEF pour l'organisation de ce point de rencontre sur un sujet qui est très important, apparu relativement récemment, qui est la sobriété énergétique, mais qui va rester d'actualité pendant de très nombreux temps. Donc, d'abord, peut-être pour repréciser le cadre, vous avez tous passé l'hiver, vous avez entendu un certain nombre de messages. On avait un certain nombre de questionnements sur notre capacité collective à disposer d'assez d'énergie et suite à quoi on avait sollicité l'aide de tous les Français, que ce soit dans leur quotidien professionnel et même dans le ménage, pour faire des efforts en réinterrogeant le réel besoin d'énergie parce que quand l'énergie est peu chère et très abondante, on a tendance à ne pas se poser beaucoup de questions. Les efforts qui ont été faits collectivement par l'ensemble des Français, par les entreprises, par les ménages, a porté ses fruits, puisque depuis le mois d'août dernier, nous en sommes à une baisse de consommation de moins 12%. Gaz plus électricité, et cette baisse-là, elle est corrigée des variations climatiques. Sinon, ce chiffre ne voudrait pas dire grand-chose, ce qui veut dire que les Français ont joué le jeu, vous avez tous joué le jeu, et pour ça, on vous remercie, parce que ça montre qu'on n'a pas été forcément très facile et qu'il a fallu démontrer une certaine réactivité pour franchir ce défi collectif. Une fois que l'hiver est passé, on se rend compte maintenant qu'il faut qu'on ait une action, je dirais qu'on change de paradigme vis-à-vis d'énergie et que ce n'était pas juste le coup d'un hiver, à la fois parce que maintenant on va rentrer dans des périodes estivales et que les sujets d'énergie restent toujours prégnants. Il faut également préparer l'hiver prochain, mais il faut aussi inscrire ces efforts-là sur le temps long. Vous vous souvenez tous de l'été passé sur lesquels il y a eu un certain nombre d'épisodes de canicule, des sécheresses, etc. Et on sait qu'avec le réchauffement climatique, on va être obligé de s'adapter, et le fait de baisser notre consommation énergétique sans remettre en cause nos principes de vie est un des éléments essentiels pour arriver à contenir ce changement de climat. La consommation principale en été, elle vient des climatisations et sur lesquelles il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être entreprises. notamment le fait de déclencher la climatisation à partir de 26 degrés et ne jamais la régler au-dessous. Mais il existe aussi tout un tas
Il parle, je pense pas que c'est
d'outils qui
dispo, toi,
essayent
ça passe.
d'éviter la mise en œuvre de cette
J'ai deux
climatisation
rendez-vous
et
cet
de l'impact.
après-midi, donc j'ai deux rendez-vous.
Il y a un micro
J'ai un
qui
rendez-vous cet
est
après-midi à l'intérieur,
allumé,
sous signal.
ouvert. Je ne
Ben, de
sais pas si
son.
c'est possible de
Il...
l'éteindre. Merci. Ces sujets-là sur la sobriété vont vraiment reprendre le devant de la scène. On attend le lancement imminent du plan de sobriété étape 2, donc sur cette partie estivale qui devrait être lancée par la ministre la semaine prochaine. Et puis, à l'image de ce qu'on avait fait au cours de l'automne, une campagne de communication dédiée aux gestes d'été sera également diffusée sur l'ensemble des médias pour permettre aussi collectivement de donner les bons gestes à adopter et vraiment qui soient adaptés à la période de l'année. Donc pour cela, ce qui est et au-delà de ces éléments, ce qui est vraiment essentiel, c'est de pouvoir anticiper les actions. Alors il y a les actions estivales et encore merci pour l'organisation de ce webinaire, mais également d'anticiper en préparant les actions qui seront essentielles pour l'hiver prochain. Et du coup, de pouvoir sortir de l'urgence, même si on reste sur un temps contraint, mais en tout cas, avoir un peu plus de temps, enfin, que vous ayez un peu plus de temps pour arriver à caler les choses. Je ne rentrerai pas sur les dispositifs d'accompagnement qui existent des entreprises. Le MEDEF est parfaitement informé et plus déjà un certain nombre de choses. Donc, je vous invite à revenir vers Madeleine Lafont et ses équipes si pour toute question sur ces dispositifs. Et en tout cas, vraiment merci pour MEDEF pour l'organisation de ce webinaire. Je reste bien sûr à disposition pour toute question. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sobriété, c'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment de l'inscrire sur le temps long. C'est un changement de paradigme, un changement d'habitude. Tout ceci prend du temps, nécessite pour partie aussi un dialogue social de proximité qui peut être important. Mais c'est vraiment un enjeu sur le temps long et je vous remercie beaucoup pour votre mobilisation sur ces sujets.
Merci, merci Séverine, c'était effectivement très clair. On est ravis de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique et dans cette dynamique collective extrêmement importante. Voilà, je cède la parole à Guillaume Creuset pour qu'il nous en dise un peu plus sur les solutions à mettre en place.
Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez et si vous voyez mon écran.
Parfaitement.
Parfait.
Alors, on voit pas votre PowerPoint.
Ah. Est-ce bon désormais?
Alors, hop. Et là,
Ça
c'est
se
parfait.
en plein
Oui.
écran. C'est parfait. Bon, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Guillaume Creuset, je coordonne la cellule mobilisation des entreprises au sein de la direction entreprises et transition industrielle à l'ADEME. C'est un service qui est en charge d'un certain nombre de partenariats et je suis heureux d'être parmi vous pour évoquer aujourd'hui les bonnes pratiques et quelques recommandations pour cet été. Alors, je ne vois pas le chat, mais s'il y a des questions, je pense qu'on y répondra en fin de webinaire. Tout d'abord, je voulais vous parler justement de quelques outils et faire quelques rappels sur les outils qui peuvent vous accompagner dans la définition de votre plan d'action, vous accompagner, vous, entreprise, dans cette démarche de sobriété. Rapidement, deux outils. Le premier que je voulais évoquer aujourd'hui, bien évidemment, c'est le partenariat que l'on mène avec l'outil que l'on a développé avec le CGDD, le Commissariat général du développement durable, le MEDEF et l'ADEME, porté par le groupement d'intérêt public Les entreprises s'engagent. C'est la plateforme Les entreprises s'engagent pour la sobriété énergétique. Qui permet à la fois de vous donner des outils, de vous permettre de vous engager sur quatre grandes thématiques, des sujets d'anti-gaspillage, d'efficacité énergétique, de mobilité, mais aussi d'implication et d'animation auprès de vos salariés. On a autour de ces quatre thématiques différentes actions qui sont proposées et des ressources pour pouvoir mettre en place ces actions. Cette plateforme, si vous ne la connaissez pas, depuis octobre 2022, on a déjà près de 1600 entreprises qui se sont engagées pour un total de près de 2500 actions. Avec une répartition des entreprises plutôt tournée vers les TPE et les PME, qui représentent la grosse majorité des entreprises. Néanmoins, il me semble que cette plateforme-là est intéressante aussi pour les entreprises de plus grande taille et notamment, possiblement, comme outil de mobilisation de leur chaîne de valeur, de leurs fournisseurs, de leurs sous-traitants, pour les engager également dans une démarche de sobriété. Voilà, c'était très rapide, mais que vous ayez un rappel sur l'existence de cette plateforme et qui a toujours besoin de capter plus d'entreprises, plus d'engagement pour massifier l'action autour de la sobriété. Donc, si vous ne la connaissez pas, le lien, c'est bien évidemment lesentreprisessengagent.gouv.fr. L'autre outil qui me semblait intéressant de vous rappeler aujourd'hui et qui est assez complémentaire, c'est le parcours sobriété énergétique à destination des entreprises qui est sur la plateforme ADEME Agir pour la transition écologique, qui reprend un certain nombre de ressources, à la fois pour faire des états des lieux, pour redonner un certain nombre d'actions et pour essayer d'emmener l'engagement de l'entreprise vers une action plus ambitieuse de sobriété énergétique, mais également possiblement de sobriété matière, de décarbonation ou d'énergie renouvelable et de récupération. Peut-être le point sur lequel je voulais un peu faire un focus aujourd'hui, c'est vraiment l'état des lieux et vous redonner, donc je vous ai mis le lien sur la slide, vous redonner quatre grands dispositifs si vous souhaitez vous engager et vous ne savez pas forcément comment partir, qui en plus de la plateforme Les Entreprises S'engagent peuvent vous donner un accompagnement par différents consultants ou experts externes pour vous accompagner dans la définition d'un plan d'action. Tout d'abord, je voulais vous évoquer le Diag Écoflux que l'ADEME finance et qu'on a développé en partenariat avec BPI France et qui vous permet d'avoir un expert qui vient dans l'entreprise, qui fait un audit de vos flux à la fois eau, matière, déchets, mais aussi et surtout qui nous concerne aujourd'hui énergie et qui permet à l'issue de cet audit de travailler avec vous un plan d'action et de vous accompagner dans cette mise en œuvre. Donc le Diag Écoflux, les CCI et les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers d'artisanat offrent des offres similaires, alors différentes parfois en fonction de vos besoins, en fonction des territoires, avec comme la visite énergie, les diagnostics TPE gagnantes sur tous les coûts, sur le même principe, parfois à des coûts moindres, puis ça correspond plutôt à des cibles de TPE, mais qui vous permettent de répondre à vos besoins et de la même manière de faire un état des lieux, de définir un plan d'action et de pouvoir être accompagné dans sa mise en œuvre. Donc pour pouvoir contacter les CCI et les CMA, le plus simple, c'est d'utiliser l'outil Place des entreprises. Vous saisissez la donnée comme quoi vous voulez travailler sur le sujet d'économie d'énergie, de sobriété, et vous êtes mis en relation par l'outil. Vous avez aussi, je voulais les évoquer bien évidemment, pour le petit tertiaire privé, le dispositif SAR qui vous permet d'avoir du conseil sur la rénovation possible de votre patrimoine d'entreprise au même titre qu'existent les espaces info-énergie pour les particuliers. Donc ça permet de hiérarchiser, de prioriser, d'avoir les bons conseils à la fois sur les matériaux, sur les professionnels et sur les actions qu'il faut mener sur la réduction de consommation de votre bâtiment. Et bien évidemment, plutôt orienté industrie et process, le dispositif Baisse les Watts financé par les C2E qui vous permettent d'avoir un accompagnement, des conseils et un suivi de vos consommations, de la formation sur le sujet de la baisse des consommations énergétiques. Voilà, c'est très rapidement, mais il me semblait intéressant d'évoquer ces deux outils assez complémentaires avant de faire un focus sur quelques actions dont certaines ont été évoqués par Séverine, mais l'idée étant bien depuis octobre, une démarche a été lancée, beaucoup d'engagement, beaucoup d'actions, un vrai effet avec les 12% qu'évoquait de baisse de consommation qu'évoquait Séverine. Il faut maintenant pérenniser sur le temps long et donc quelle action on peut mener sur cette sobriété pour l'été et pour pérenniser cet engagement sur la sobriété. Comme l'évoquait Séverine, le principal poste de consommation au niveau de l'été va porter effectivement sur la climatisation. Alors, l'objectif étant de limiter cette consommation électrique. Alors, plusieurs points. Bien évidemment, l'objectif est de ne climatiser qu'en période d'occupation des locaux et de ne climatiser que si la température intérieure dépasse 26, avec une température de consigne à cette température-là. Et également, si la température extérieure est supérieure à 30 degrés, ce qui permet d'avoir un intérêt pour la climatisation. Également, dans les données à avoir en tête, l'idée n'est pas de climatiser et d'abaisser forcément à 26. Avoir un écart de 6 degrés maximum entre la température intérieure et la température extérieure, finalement, permet d'assurer un confort et sans avoir une consommation excessive vis-à-vis de la climatisation. Pour avoir un ordre de grandeur, 26 degrés, la température recommandée, si vous diminuez de 4 degrés et vous passez à 22 degrés votre climatisation, vous doublez la consommation électrique pour le poste climatisation et pour refroidir votre bâtiment. En termes d'équipement, bien évidemment, rappeler l'obligation réglementaire, mais qui n'est pas encore mise en œuvre partout, avec l'obligation d'avoir des ferme-portes, soit manuelles, soit automatiques, qui permet là aussi de réduire considérablement la climatisation. C'est valable aussi pour les armoires frigorifiques dans les petits commerces. L'idée de fermer un endroit frigorifique permet bien évidemment de réduire beaucoup la consommation. Et puis, l'autre préconisation qu'on peut faire, c'est le choix d'équipement performant. Si vous devez investir, si vous devez renouveler votre équipement, eh bien, se poser la question de sa consommation énergétique avec le choix d'équipement adapté et performant énergétiquement, notamment les classes A au niveau des étiquettes énergie. Et puis, comme je disais, un équipement adapté, prendre une climatisation mobile, même classée en A, entraîne une consommation 2 à 3 fois supérieure par rapport à une climatisation fixe et possiblement jusqu'à 30 fois supérieure par rapport à une simple ventilation. Donc voilà, avoir des équipements performants et adaptés aux besoins et bien évidemment de les entretenir. Voici les grandes préconisations qu'on peut faire sur l'usage de la climatisation. Bien évidemment, en parallèle, on cherche à refroidir, mais l'idée est de voir comment on peut aussi éviter d'avoir de la chaleur et comment réduire les sources de chaleur dans le bâtiment, avec notamment une réflexion à avoir quand c'est possible et quand le bâtiment le permet, une démarche de free cooling avec possiblement une démarche de surventilation nocturne pour évacuer les calories qui ont été accumulées dans le bâtiment au cours de la journée. Et puis, bien évidemment, refermer et arrêter cette ventilation en journée à partir du moment où la chaleur extérieure commence à remonter, donc possiblement après 9h, après 10h ou même avant dans certaines périodes de canicule. Donc, surventilation à associer bien évidemment à la limitation du rayonnement solaire avec possiblement des stores extérieurs ou des films solaires sur les fenêtres et baies vitrées exposées au rayonnement solaire. Bien évidemment, le travail va aussi porter sur limiter les apports de chaleur sur les équipements numériques inutiles, les écrans qui peuvent être arrêtés, le photocopieur qui n'est pas utilisé, possiblement tous les équipements susceptibles d'apporter de la chaleur au sein du bâtiment et pouvant créer une accumulation de chaleur. Et bien évidemment, une réflexion sur les équipements industriels, l'air comprimé, arrêter les équipements quand ils ne sont pas utilisés, la recherche de fuite, les réflexions sur le fonctionnement des fours, des séchoirs et des pressions des réseaux de vapeur peuvent aussi être une possibilité qui réduise l'apport d'énergie au sein des bâtiments. Bien évidemment, la réflexion aussi sur l'éclairage avec des éclairages basse consommation comme des LED et puis l'extinction, bien évidemment, des éclairages quand le bâtiment n'est pas utilisé. L'autre poste qui me semblait intéressant d'évoquer avec vous ce matin porte plutôt sur la mobilité. Alors, la mobilité, ce n'est pas forcément des actions uniquement estivales. Néanmoins, c'est la période d'été, me semble, est une période propice au changement de comportement et donc à la possibilité de mobiliser vos salariés autour de la mobilité douce, notamment les démarches comme Mai à vélo et la période estivale qui permet de se poser la question changer son mode de déplacement. Soit on avait promu l'application Klaxit au dernier webinaire, la promotion du covoiturage, mais aussi des démarches de forfaits de mobilité durable, d'incitation au vélo, peuvent être aussi des moyens intéressants pour continuer à travailler votre plan d'action sobriété dans cette période estivale. Et bien évidemment, une autre action qui est intéressante, c'est la possibilité d'inciter à réduire la vitesse de vos collaborateurs lors de leur déplacement, notamment la notion de 110 sur autoroute, qui permettent finalement d'étendre peu la durée du déplacement. Hein, sur un déplacement de 100 km, on augmente finalement le déplacement que d'environ 7 minutes. Et 100 km, c'est déjà un grand déplacement par rapport à un déplacement quotidien. Et finalement, cette réduction de 20 km/h permet une réduction de consommation en moyenne de 12,5%, donc ce qui n'est pas neutre. Et ramené à l'ensemble du parc automobile français, on peut estimer à une réduction d'émissions de CO2 de 2,5 millions de tonnes par an. Donc, une démarche possiblement incitative qui a très clairement son effet en termes à la fois d'émissions carbone et de sobriété énergétique. L'autre axe sur lequel je voulais évoquer avec vous et qui voilà aujourd'hui, c'est le sujet de l'implication du personnel, puisque si on veut maintenir sur le temps long cette démarche et ses effets de sobriété énergétique, c'est aussi un élément important pour la pérennisation de ces effets. Notamment, marteler toujours la sensibilisation et la formation auprès du personnel, et puis la notion d'ambassadeur pour avoir quelqu'un nommé, identifié au sein de l'entreprise, qui apporte la bonne parole, qui remet le sujet sur le haut de la pile quand c'est nécessaire, et qui permet de créer cette dynamique sur le long terme pour atteindre un objectif pérennisé d'économie d'énergie. Ça peut être également dans le cadre d'une démarche ISO 50001, si effectivement l'entreprise se lance dans une telle démarche. En termes de sobriété estivale, il me semble qu'il y a aussi la réflexion à avoir sur possiblement certaines règles ou habitudes de travail, notamment en termes d'horaire, possiblement en termes d'organisation de postes de travail et d'avoir des salles de réunion en période de canicule, peut-être qui sont plus enterrées ou moins exposées au niveau solaire, qui permettent aussi d'avoir possiblement des moindres consommations énergétiques, notamment liées à la climatisation des bâtiments. Et puis les trois derniers points que je voulais évoquer, bien qui reprennent un peu les sujets du départ, c'est l'importance de faire un état des lieux en parallèle des différentes actions qu'on vient évoquer pour avoir une vision 360, bien évidemment de suivre cette consommation et de la communiquer pour bien impliquer vos salariés, avec la possibilité, et qui avec des effets non négligeables, de défis ou de challenge en interne à l'entreprise ou en inter-entreprise, avec des démarches comme C-Cube, qui permettent là aussi de mobiliser les salariés et de maintenir l'engagement, la motivation sur ces effets de sobriété énergétique. Et bien évidemment, ce qu'évoquait Séverine tout à l'heure, eh bien, l'intérêt de s'engager dans une démarche plus ambitieuse, de mener ses actions, mais d'avoir aussi une vision un peu plus long terme sur la sobriété énergétique, sur vos consommations, mais aussi en lien sur les émissions carbone, avec une vision possiblement 2030, 2050, si on veut atteindre la neutralité carbone sur ces périodes-là. Voilà, c'était un peu flash. Le temps qui m'était associé était assez limité. Donc j'espère que ça n'a pas été une présentation trop à la Prévert de ces différents éléments.
Merci beaucoup, Guillaume. Je pense que c'est l'idée, c'était de donner une première sensibilisation et merci pour l'étendue des solutions identifiées. Je note qu'on a la transition toute trouvée parce qu'aujourd'hui, on va, par la suite, là, je vais laisser la parole aux représentants des coins pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de la démarche de plus long terme. Et une fois qu'on a un peu établi les premiers gestes qui permettent des actions de sobriété, je vous laisse la parole.
Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci. On est ravis avec Isabelle d'être parmi vous pour vous dire quelques mots. Donc, effectivement, quelques mots de contexte déjà sur le cadre de notre intervention. Donc, nous, on va intervenir en tant qu'Equens, membre du CERS. Donc, notre propos sera plutôt lié aux travaux et à l'exploitation maintenance associée, puisqu'on part du principe que ça sert à rien de faire des travaux si on n'est pas capable de s'engager sur les résultats de performance énergétique. Donc, évidemment, pour l'été, ça va être un peu compliqué, mais en revanche, il faut anticiper l'hiver. Et même pour l'été, on en parlait avec Patrick et Isabelle, il y a des choses à faire sur la GTC-GTB. Alors, si on regarde le premier slide, je voulais quand même rappeler un peu le contexte énergétique. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de pénurie, en particulier depuis quelques mois, on est excédentaire. On a un prix de l'électricité, c'est pareil sur le gaz, qui après avoir connu un pic à plus de 1000 euros du mégawatt, et ça nous a tous marqués, est un peu plus stabilisé, mais à mon avis, et vous le partagez tous, rien n'est fait, rien n'est acquis. C'est-à-dire que cette crise a marqué profondément les esprits, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, quand on parlait à du tertiaire ou à de l'industrie, l'énergie n'était pas clé. Aujourd'hui, un bâtiment qui est une passoire énergétique ne trouve plus de locataire, et dans le coût du loyer, le prix de l'énergie est important. Pour un industriel, le coût de l'énergie a un impact important, et Guillaume le rappelait, malheureusement ou heureusement, mais c'est comme ça, les métiers que l'on porte, c'est-à-dire les métiers du génie électrique et du génie climatique, sont la principale source de consommation dans un bâtiment. C'est vrai en habitat, c'est vrai en tertiaire. Or, c'est moins vrai en industrie parce que des fois, le process est excédentaire. Mais dans un bâtiment tertiaire, allez, 60 à 70% de la consommation est liée à la climatisation au chauffage et au luminaire. Et la principale partie, en particulier l'été, c'est la climatisation. Donc, les propos de Guillaume sont là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, c'est le slide suivant. On aime bien ce slide-là parce que ça permet de donner un peu la vue pour, en matière d'efficacité et de sobriété énergétique, parce que je pense qu'il ne faut pas opposer les deux termes. Les deux sont liés. Il y a d'abord toutes les actions qui sont les plus vertueuses, c'est consommer moins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout a été dit, hein. C'est de l'usage. C'est-à-dire que c'est pousser les gens à travailler avec des plages de chaleur plus élevées. Peut-être en complément de l'intervention de Guillaume, c'est par exemple l'été où il y a un peu moins de monde dans les bureaux, et bien de climatiser certaines zones et d'arrêter certains accès quand on est en space planning, parce que ça permet de densifier et de pas climatiser l'ensemble de la surface. C'est aussi le bon réglage des installations. Je rappelle quand même deux chiffres, hein. C'est-à-dire que à peu près 15% des bâtiments ont une GTC digne de ce nom, et dans 70% des cas, cette GTC n'est pas exploitée. C'est-à-dire que pendant des années, on s'est fait plaisir à remonter d'avoir le maximum d'informations, mais on les a pas utilisées pour piloter. Et c'était quand même la vocation première d'une GTC-GTB. Et là, il y a énormément de choses à faire. Guillaume le disait aussi, en industrie, on peut parler de process, c'est-à-dire que l'air comprimé, souvent, il y a 30% de fuite. Donc, il y a énormément de gains à faire. On n'a pas évoqué, par contre, les récupérateurs de chaleur qu'il faut massifier avec l'aide des C2E, parce que ça, c'est de l'énergie gratuite. Alors, tout ça, on est dans le consommer moins et plutôt de la sobriété à la fois tertiaire, habitat et industriel. Le deuxième gros bloc, c'est le consommer vert. Voilà, c'est de remplacer de l'énergie fossile par de l'énergie locale et plutôt verte. Alors, on va parler de photovoltaïque en autoconsommation, on peut parler d'hydrogène, on peut parler de géothermie, de biomasse. Bref, les technologies se sont multipliées. Au passage, des technologies qui n'étaient pas intéressantes en termes d'économie, avec une énergie à 200 euros du mégawatt, le sont. Aujourd'hui, faire du PV en autoconsommation, on est en dessous de ces niveaux de prix. Et il y a aussi toute la partie mobilité. Et là, on voit une conjugaison des technologies. Alors, on parle bien sûr de véhicules électriques, mais par exemple, ces véhicules électriques et ces bornes peuvent servir de bornes de stockage d'énergie. C'est-à-dire que si vous avez du PV, vous pouvez utiliser cette énergie et la stocker. Mais là aussi, ça va impliquer une modification des usages et je reviendrai sur ce point. Le dernier point, c'est peut-être le point le plus important, c'est comment on peut effacer certains bâtiments. C'est le consommer flexible en lien avec EcoWatt. Mais il y a aussi la connexion des bâtiments. Alors là, c'est un peu plus complexe, mais on l'a fait dans certains cas, c'est-à-dire c'est des quartiers qui pourraient être à énergie positive, c'est-à-dire vous allez coupler le profil de consommation de bâtiments. Je suis en tertiaire, je vais plutôt consommer de 8h à 20h, et ça, vous le coupez avec du résidentiel qui est sur une autre plage horaire, et vous arrivez à mutualiser une production avec un micro-réseau. Donc, voilà, donc en résumé dans cette introduction, Nos métiers consomment, mais c'est lié au confort. On a trois grands axes à travailler qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent. C'est le consommer moins, le consommer vert et le consommer flexible. Après, il y a une petite méthodologie à avoir, c'est-à-dire qu'il va partir de l'audit. On ne peut rien faire si on ne maîtrise pas la consommation. Et derrière, il y a les APE. Mais là, c'est Isabelle qui va intervenir sur ce point-là. Je te laisse compléter, Isabelle.
Merci Gilles. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites très intéressantes. L'idée de ce slide, c'est de présenter les principales étapes clés et l'ordre dans lequel on conseille d'aborder ces différents sujets pour aborder ces projets plus ambitieux qu'on a tous évoqués. Donc effectivement, il y a dans un premier temps la réalisation d'audits énergétiques, plus ou moins light, plus ou moins normés en fonction du contexte, de l'environnement de nos clients. Les principaux objectifs de ces audits énergétiques, ça va être d'analyser les usages de façon à bien connaître les profils de consommation de vos bâtiments, de vos process industriels, etc. Ces audits énergétiques, ils vont nous permettre d'identifier l'ensemble des actions de performance énergétique sur lesquelles on va revenir et qu'on a quand même déjà beaucoup évoqué depuis le début de cette conférence, et de prioriser ces APE. En fonction du contexte, on va prioriser certaines actions par rapport à d'autres, par rapport à des investissements, par rapport à des technologies, etc. Donc c'est vraiment à adapter à votre environnement. Il n'y a pas une solution qui est magique pour tout le monde. La deuxième étape, qui peut se faire en parallèle de la première, j'aurais tendance à dire, c'est de mesurer et de suivre les consommations. Si on veut être acteur et suivre vraiment l'ensemble de la performance, même des actions de sobriété, si on ne mesure pas, on ne saura pas quels sont les efforts qu'on a pu mettre en place, et en tout cas les actions qui sont nécessaires derrière et qu'il faut éventuellement renforcer. Donc la première étape par rapport à ça, c'est de mettre en place des solutions simple, de comptage, de plan de comptage, de solutions de management de l'énergie. Je pense qu'il y en a déjà pas mal qui ont été mis en œuvre principalement dans le cadre des décrets, enfin dispositifs éco-énergie tertiaire. Mais derrière, c'est quand même des outils qui sont nécessaires. Il y en a multiples sur le marché, mais qui vont permettre d'avancer et de voir sur la durée comment on réagit par rapport à tous ces usages-là. Et donc évidemment, ces outils permettent d'assurer le suivi des consommations et d'anticiper les dérives et de piloter tout ça. Pour rentrer après un peu plus dans le détail qu'on a évoqué sur les actions de performance énergétique, l'idée c'est effectivement de pouvoir installer des équipements performants, on l'a tous dit depuis le début, et d'aller jusqu'aux modalités d'exploitation sur lesquelles reviendra Patrick derrière. Si je rentre un peu plus dans le détail des solutions, au-delà de la sobriété et pour engager des plans plus ambitieux, on va avoir différents types de solutions qui vont s'adresser soit au tertiaire, soit à l'industrie, soit aux deux, peu importe, bâtiment ou process. Et on va retrouver des choses, encore une fois, qu'on a dit, que ça soit la mise en place de LED à la place de néon, par exemple. Ça peut être des capteurs qui permettent de détecter une présence et donc d'éviter les salles allumées ou les espaces allumés qui ne servent à rien. Ça peut être la mise en place d'équipements plus efficients comme des chaudières, comme des pompes à chaleur. Encore une fois, pas de solution magique. En fonction des usages de l'environnement, on s'adapte à tout ça. Après, il y a toutes les solutions à mettre en place pour piloter le bâtiment. Avec éventuellement des plages horaires, avec des consignes, encore une fois avec les usages. Alors, on parle de GTB, de GTC, ça peut être des solutions plus ou moins light en fonction de la taille des bâtiments. Faut pas oublier qu'il y a un décret, le décret BACS, qui a été relancé là avec de nouvelles obligations qui concernent les bâtiments, pour faire simple, avec une certaine puissance, mais qui se cale assez bien sur le décret éco-énergie tertiaire autour des 1000 m². Donc ça, c'est un sujet qui est super important parce que, comme l'évoquait Gilles, peu de bâtiments sont finalement équipés, et s'ils sont équipés, ils ne font pas forcément exploiter au quotidien comme ils le devraient. Après, on l'a évoqué, plutôt sur un sujet industriel, optimiser les process avec la récupération de chaleur et optimiser tous les outils qui sont autour des process du chaud, du froid, de l'air comprimé, etc. Après, pour aller vers une logique de plutôt consommer vert, mettre en place les solutions de photovoltaïque, que ça soit sur des toitures, sur des ombrières, encore une fois, en fonction du bâtiment, on ne peut pas mettre tout n'importe quoi partout, et avec des sujets en autoconsommation, voire en injection ou un complément entre les deux. On l'a évoqué tout à l'heure, tout ce qui est four, etc., dans des domaines industriels, c'est aussi de remplacer les énergies fossiles par des énergies plutôt vertes, et aller au-delà de ça avec les sujets autour de la mobilité et le déploiement d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. Donc là, on était plutôt sur des fondamentaux qu'on peut déployer à court terme, avec un ROI qui va être plus rapide que ce qu'on a connu il y a quelques années. Et au-delà de ça, à moyen terme, on va aller vers des sujets où on peut commencer à étudier sur la géothermie, sur la production d'hydrogène, etc., encore une fois, en fonction du contexte. Voilà pour balayer tout ce qu'on a un peu évoqué, mais en termes de méthodo. Je te laisse conclure sur les trois étapes clés, Gilles, et les trois questions qu'il faut se poser.
Alors, je serai bref, parce que comme ça permettra à Patrick d'intervenir dans le bon timing et de laisser du temps aux questions-réponses. Par rapport à notre intervention, les messages qu'on voulait partager avec vous, c'est d'abord, si on veut attaquer un problème, il faut être capable de le mesurer, de le suivre. Sinon, on n'arrive pas à piloter les actions, c'est-à-dire il faut connaître son profil de consommation et passer du temps à faire les audits. On en a beaucoup parlé, il n'y a rien de mieux que les actions de sobriété, c'est ce qu'il faut faire, et ça veut dire, encore une fois, usage, réglage des équipements de chauffage et de ventilation, ça veut dire aussi mise en place d'une GTC et GTB efficace en utilisant le décret BACS, etc., on l'a dit plein de fois. Le deuxième point, à partir du moment où on a fait tout ça, il va falloir arriver à faire le choix des bonnes actions de performance énergétique, ces fameuses APE. Les ROI sont différents, elles sont différentes d'un secteur à l'autre. Le récupérateur, évidemment, est intéressant en industrie, ne l'est absolument pas en tertiaire. J'insisterai beaucoup, ça sera mon message, sur la partie mise en œuvre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a mis en place la bonne technologie qu'on aura les résultats dans la durée. Donc, nous, notre recommandation très forte, c'est le CPE, c'est-à-dire d'un contrat de performance énergétique, parce qu'on a besoin de s'engager sur la durée. Sachez aussi, c'est un point important, que la profession travaille beaucoup à proposer des plateformes et des solutions de financement. C'est important parce que ça permet aux différents clients qui ont des fois pas le cash nécessaire pour faire ces travaux à une seule fois, de les faire à une seule fois, de lisser la charge et de bénéficier de la totalité des économies d'énergie associées à ces travaux. Donc ça, c'est très important. Et le troisième point, c'est d'être à l'écoute des technologies nouvelles et de toujours essayer de produire au plus près l'énergie qui sera consommée dans un site et si possible, évidemment, vert. J'en conclurai par, si on veut sauver la croissance tout en sauvant la planète, ça passera évidemment par des technologies, mais ça passe avant tout par un changement de l'usage. C'est-à-dire que tous ensemble, on est vertueux collectivement pour sauver la planète. Où c'est un peu plus compliqué, c'est individuellement. C'est-à-dire, il faut être prêt à faire attention à son confort et à accepter de travailler à 26 degrés plutôt qu'à 21 degrés. Les économies sont conséquentes. Certes, c'est moins confortable, mais c'est vivable. Et si on fait pas ces efforts de mobilité, de confort à l'intérieur d'un bâtiment, quelle que soit l'évolution des technologies, on n'y arrivera pas. Après, il y a une responsabilité aussi chez les fabricants et les installateurs et les mainteneurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on progresse. Il est plus compliqué des fois à installer, à maintenir des nouvelles technologies. Donc, on doit faire progresser techniquement le niveau de l'ensemble des entreprises et que les fabricants travaillent aussi à des équipements plus performants. Et là, on rebondit sur ce qu'en dit Guillaume, mais moi, je reste optimiste. On a pas mal de solutions, mais c'est une décision collective et ça passe par l'implication individuelle de chacun. Voilà.
Merci pour ce panorama très complet. Je cède tout de suite la parole à Patrick Léogier pour le SNEC. Et puis pour la partie aussi, on a installé, on a vu les différentes étapes, mais il faut pas négliger aussi après tout ce qui est maintenant, c'est accompagnement des systèmes.
Hein. Vous avoir invité. Pardon, merci. Merci de nous avoir invités, je dirais, pour pouvoir parler de ce sujet. Merci, je dirais, à Gilles et Isabelle pour ce passage de témoin. Donc moi, avant d'aller un petit peu plus loin, deux, trois petits mots sur qui on est, je dirais, sur cette slide-là, donc je serai bref. La FEDEN, c'est une fédération. On a tendance à dire que c'est une fédération de l'efficacité énergétique et de la chaleur renouvelable. On insiste beaucoup sur cette histoire de chaleur qui est beaucoup oubliée depuis un certain nombre d'années concernant les ENR. La FEDEN, c'est à peu près 500 entreprises et ça regroupe plus de 60 000 salariés. Donc, c'est des gens qui sont très importants. C'est des gens que vous croisez tous les jours et qui font de l'exploitation. Donc, on est très heureux, par exemple, de faire l'exploitation de l'immeuble du MEDEF sur lequel nous sommes actuellement présents. Voilà. Et c'est un syndicat, enfin une fédération qui regroupe, par exemple, les usines d'incinération. On préférera appeler les unités de valorisation énergétique, le chauffage urbain, les chaufferies d'immeubles, les chaudières individuelles, le facilities management, etc. Donc, vous voyez qu'on est présent dans énormément de secteurs d'activité. Alors, je vais déjà vous parler un peu de, vite fait sur cette slide-là, d'un slide qu'on partage avec le ministère, que Séverine donc connaît au niveau des chiffres qu'on a transmis. Sur cette slide, je dirais en fait le premier sujet, c'est on en est où, je dirais, par rapport à la sobriété énergétique. Ça, c'est les chiffres qui vous présentent les résultats vus de notre côté au niveau de la FEDEN sur un indicateur dont on dispose au niveau de l'ensemble de nos adhérents, qui est l'indicateur d'efficacité énergétique. Alors, c'est un indicateur qui est compliqué à sortir parce qu'en fait, bien évidemment, il est recalé des conditions climatiques et on regarde d'un exercice à l'autre quelle est l'évolution de notre portefeuille sur un périmètre qu'on essaye d'avoir le plus constant possible pour voir quelle est la baisse des consommations au fur et à mesure. Donc, si on regarde par rapport au plan de sobriété qui a été lancé au cours du deuxième semestre 2022, on a une baisse qui est un petit peu inférieure au chiffre de 12% qui a été annoncé tout à l'heure, mais nous, on ne focalise que sur la partie chaleur et on est aux alentours de 9%, je dirais, de baisse au niveau global. Et vous avez la répartition sur ce tableau entre le tertiaire privé, le tertiaire public et l'habitat. Donc, on voit bien que celui qui a été le plus exemplaire, ça a été le tertiaire public. Donc, il y a eu la circulaire de Castex hein, qui est sortie assez rapidement et qui a été mise en application au niveau des préfets. Et c'est eux qui se sont, on va dire, manifestés le plus tôt sur la partie sobriété. Et vous avez après les chiffres à côté de la fin du premier semestre 2022 à fin avril pour les quatre premiers mois de l'année qui montrent, je dirais, que le résultat est toujours très significatif en termes de baisse des consommations, mais on note malgré tout un certain infléchissement de la courbe qui a tendance à nous inquiéter un tout petit peu. Ça sent un peu l'effet rebond, mais il ne faut pas que ça soit un effet rebond, donc il faut qu'on arrive à faire en sorte que pour l'hiver qui vienne, je dirais, on corrige et qu'on se remette sur la bonne trajectoire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Si le résultat n'est pas aussi performant, peut-être, je dirais, que celui qui a été annoncé au niveau macro, au niveau national, c'est que l'essentiel de nos contrats, c'est déjà des contrats de performance énergétique et qui sont déjà beaucoup plus performants que la moyenne, je dirais, de l'exploitation française. Et en moyenne, un contrat de résultat et un CPE est plus efficace qu'une exploitation, on va dire, en contrat de moyens. Vous faites venir juste un technicien une fois par an ou deux fois par an, et la moyenne des résultats montre une efficacité de l'ordre de 18%. Donc, ce qui explique que quand quelque chose est déjà très optimisé, ben, c'est très difficile. Hein. Quand vous êtes à une asymptote, baisser encore l'asymptote, c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors, sur le deuxième semestre, donc on a réduit la consommation énergétique de 8%. C'est très bon résultat, donc je viens d'expliquer. Alors, c'est le résultat du fruit de notre travail, de l'ensemble de nos équipes d'optimisation et de toutes les actions de sobriété. On sépare bien, donc, ce que Gilles a expliqué avant, les trois actions. La sobriété, qui est l'action volontaire de baisser les consommations, tout simplement, de l'efficacité énergétique qui induit de faire des investissements. Il est clair que la frontière entre les deux n'est pas toujours si simple que ça à déterminer, je dirais, de ce côté-là. Et le troisième volet pour nous, je dirais, en ce moment, c'est l'énergie verte. Je dirais que Gilles a expliqué, on retrouve bien ton dernier slide, hein, d'ailleurs, Gilles, dans cette logique des trois actions qui se suivent. Dernier commentaire depuis le plan de sobriété, on constate une meilleure acceptabilité des gestes de sobriété par nos clients et donc par vos collaborateurs et par tout le monde. Les gens acceptent plus facilement et plus volontiers de baisser les températures. Je dirais, il y a eu une prise de conscience, je dirais, dans la population sur, un, l'énergie est chère, j'aime bien la courbe de Gilles. La courbe de Gilles, je dirais, montre quand même une chose. On est revenu sur une situation, on va dire, plus raisonnable. Mais malgré tout, par rapport à il y a 3 ans, les prix de l'énergie sont encore 2 fois supérieurs. Hein. Il ne faut pas se l'oublier. Et on n'est pas à l'abri, je dirais, d'une hausse qui va revenir dans les années à venir. Et on craint quand même que l'hiver prochain, je dirais, avec des prix qui peuvent repartir assez facilement. Voilà. Donc voilà, une meilleure acceptabilité par l'ensemble de nos clients. Alors, je vais passer sur le slide d'après, ça sera plus simple. L'estimation de l'origine des gains. Les retours d'expérience démontrent que cette réduction est obtenue. 1. L'application rigoureuse des circulaires qui ont été diffusées, Madame Castex ou Madame Borne après derrière, je dirais, sur l'ensemble des choses. Ça a été bien noté par l'intervenant de l'ADEME sur toutes les actions à réaliser après derrière. Voilà. La mise en œuvre de toutes ces mesures de sobriété, moi, j'aime bien le dire, ça s'est fait sur 3 grandes actions. 1, la baisse des températures, bien évidemment. Essayer de se mettre rigoureusement aux 19 degrés, c'est pas si évident que ça. La loi nous obligeait déjà plus ou moins à le faire, mais c'était pas forcément extrêmement bien appliqué. L'augmentation des réduits, je dirais, accepter, je dirais, de ne pas laisser, on va dire, la température en permanence, et ensuite reporter la saison de chauffe. Donc, on a vu effectivement l'hiver dernier, je dirais, un certain nombre d'installations où on a déplacé, je dirais, la mise en route du chauffage. Très souvent, je dirais, quand vous êtes au mois de septembre, au mois d'octobre, les gens ont tendance à vouloir allumer le chauffage tout de suite, retarder de quelques jours ou d'une semaine. Je dirais, c'est possible. Je dirais, donc, et il n'y a pas énormément de perte de confort. Une conduite encore plus rigoureuse des installations par les opérationnels compte tenu des enjeux. Donc, toute notre profession a su se mobiliser pour répondre aux enjeux collectifs et accompagner ces démarches de sobriété et d'efficacité énergétique. Et un respect encore plus strict des termes contractuels. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai expliqué où on en était, on en est où maintenant pour cette période estivale? Donc, le sujet, il est moins prégnant en période estivale qu'en période hivernale. Ça, c'est clair, la période estivale pour nous, c'est essentiellement la climatisation, le rafraîchissement des installations. Ça ne concerne pas forcément tous nos clients, en particulier l'habitat est quand même assez peu concerné globalement. Malgré tout, on mène encore des actions, je dirais, sur cette histoire de température. On partage donc l'opinion du 26 degrés et on partage en particulier cet écart de température par rapport à la température extérieure, qui est peut-être encore plus importante que le 26 degrés. Donc, l'ADEME donc, a évoqué le delta de 6 degrés. Bon, si on pouvait, nous, être plutôt entre 4 et 6, ça serait mieux. Je dirais 6 étant pour nous peut-être le maximum, quoi. Mais on a tous tendance à vouloir mettre plutôt 22, 23. Remarquez ce que vous faites dans la voiture. On fait souvent ce geste-là. On met la température des fois un peu trop bas. Voilà. Donc, continuez à travailler sur la température. Ensuite, continuez à travailler sur la partie optimisation et programmation, ce que j'expliquais tout à l'heure. Limitez la ventilation aux besoins de renouvellement d'air réglementaire. Limitez les périodes de fonctionnement de cette ventilation également. Donc, ça a été rappelé par l'ADEME dans le détail. Il y a le pilotage à distance de tous les équipements en gérant l'intermittence et la présence. Ça, c'est important. Je note, et Gilles, je suis d'accord avec toi, on a souvent installé des Ferrari au niveau de nos GTC et elles sont pas utilisées au niveau de leur potentiel. Donc, il y a un gain très important, je dirais, qui est accessible facilement sur cette partie-là. Voilà. Et bien évidemment, superviser à distance tout ça pour être alerté en cas de dérive. Tous les adhérents de la FEDEN ont développé des outils, je dirais, qui sont merveilleux, magnifiques, etc. Il ne faut pas les utiliser uniquement comme télésurveillance, mais également comme pilotage à distance. Continuer à travailler sur la partie sensibilisation et formation, donc sensibiliser les occupants au comportement sobre, au travers d'ambassadeurs énergie, au travers de distribution de flyers, au travers d'un certain nombre de choses. Ça fait partie de nos actions. Vous verrez le slide d'après, les adhérents ont communiqué énormément sur ce sujet-là. Voilà. Donc, proposer aux occupants de les sensibiliser également à la sobriété au travers d'une offre d'animation. Donc, certains ont réussi à le faire. Et surtout, pour nous maintenant, c'est de préparer l'hiver. Préparer l'hiver en termes d'exploitation, mais préparer l'hiver aussi pour préparer des APE, comme l'a expliqué Gilles, je dirais après derrière, préparer les GTC, préparer, je dirais, des investissements d'efficacité énergétique, un certain nombre de choses. Voilà. Donc, élaborer dès maintenant le plan des actions à réaliser pour aborder l'hiver et le mettre en œuvre pendant l'arrêt de la saison de chauffage. Il y a des actions très simples qui ne demandent pas forcément énormément d'investissement. Voilà, le désembouage, l'équilibrage, le calorifuge, mettre des robinets thermostatiques, continuer à piloter la température partout où c'est possible après derrière. Voilà les quelques actions. L'exemple de campagne de sensibilisation sur ce slide, et puis les gens pourront regarder après derrière, parce qu'on a mis les liens, il suffira de cliquer quand vous diffuserez les slides. Vous avez ici les slides de trois grands adhérents au niveau de la FEDEN. Vous avez celui d'IDEX, je dirais, avec le visuel, vous avez celui d'Engie au milieu et vous avez celui de Dalkia sur la partie droite. À chaque fois, on est dans la même logique. Il y a cette partie sobriété, on est sur les gestes, on est sur tous les comportements à avoir par rapport à ça. En termes de messages après-derrière, on en a mis deux, nous, je dirais, pour les résumer, en focalisant uniquement sur cette partie sobriété. Un, pérenniser le plan de sobriété grâce à la garantie de performance énergétique. Il y a une action qui est très simple et qu'on voudrait donner à tout le monde, c'est passer par des contrats de résultats. Peu importe le prestataire avec qui vous allez le faire, que ce soit un adhérent de la FEDEN, un adhérent du CERS, ou même en exploitation régie chez un industriel ou dans une collectivité, ne faites pas de contrat moyen, mettez le paquet sur la partie exploitation maintenance, c'est extrêmement important. On voit bien que les principaux gains, ils sont dans la partie exploitation. En moyenne, le ministère considère qu'on peut gagner à peu près 15% avec un contrat bien géré par rapport à un simple contrat de moyen. Voilà. Donc, le contrat de performance énergétique, nous, c'est un petit peu notre credo, ce qu'il faut développer. Et ensuite, à court terme, en dehors des APE beaucoup plus compliquées qui vont prendre un certain nombre de temps avant de se monter, pour nous, c'est le digital. Ça, c'est l'autre action après derrière. Donc là, je vais faire plaisir à certains fabricants français qui brandissent, on va dire, le digital en permanence. Mais c'est tout ce qu'on peut faire sur cette partie-là. Je dirais, c'est des travaux qui sont pas très chers et qui sont à gain rapide, qui peuvent être mis en place dès cet été et sur lequel, je dirais, dès cet hiver, on aura les résultats. Donc, pour nous, on l'a mis, l'utilisation du numérique permet de piloter à distance tous les équipements des bâtiments, d'apporter des gains énergétiques grâce à une délivrance du juste besoin énergétique au bon moment et aux bons endroits. Voilà. Merci.
Merci. Merci, je crois que c'était assez complet. On a des questions dans le chat et une première question qui concerne la date à laquelle il est plus intéressant de faire un audit énergétique. Et moi, j'ai une deuxième question sur l'audit énergétique. Ça prend combien de temps? Parce que voilà, quand est-ce qu'on planifie son audit énergétique? Est-ce qu'il y a un moment optimal et quel temps il faut y consacrer?
Alors, le moment idéal, c'est dès qu'on peut, j'aurais tendance à dire, le plus vite, ça sera le mieux. Il y avait déjà des contraintes, j'ai évoqué le dispositif éco-énergie tertiaire. Il n'implique pas forcément un audit énergétique, mais déjà un référencement des usages, des consommations, etc. C'est une première approche pour ceux qui étaient concernés. Ils peuvent derrière déboucher sur un audit énergétique pour définir ces actions de performance énergétique qu'on a tous évoquées. Donc j'aurais tendance à dire il n'y a pas de période idéale, c'est le plus tôt possible pour pouvoir prévoir le schéma directeur ou la feuille de route qu'on veut prévoir en termes d'APE et les investissements qu'on va faire sur la durée.
La seule contrainte du diagnostic énergétique, si vous souhaitez faire, par exemple, une thermo, enfin, infrarouge, bah, vaudra mieux le faire l'hiver pour pouvoir mesurer. Mais en dehors de ça, Isabelle a raison, vous pouvez le faire n'importe quand. Je dirais, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Et c'est rapide.
Ça va dépendre du patrimoine et de la taille du bâtiment, d'accord, de la taille des installations. Donc, okay. Oui, mais généralement, c'est rapide. Mais attention, je dirais, il y a un énorme goulet d'étranglement en France au niveau des bureaux d'études. Et votre principal problème, ça sera de trouver un prestataire, hein, je dirais, plus que la durée de l'audit en soi. Hein.
Donc, et un prestataire référencé qui respecte les obligations.
Et on a souvent aussi deux types de clients. On a des clients qui ont des grands sites industriels ou tertiaires, auquel cas c'est facile de dépêcher une équipe, quel que soit celui qui va faire l'audit. Mais comme le disait Patrick, c'est pas si simple aujourd'hui, parce que il y a beaucoup, beaucoup de demandes sur ce sujet-là. Où c'est beaucoup plus complexe, c'est sur des clients multisites, avec des succursales, etc., où il faut déplacer. Et là, il y a des technologies justement pour travailler par typologie de succursales, de bâtiments, etc., pour éviter d'aller voir tous les sites et de faire du benchmarking si on veut aller un peu vite. Mais je différencie les gros sites uniques et le multisite qui est plus difficile à gérer.
Et quand vous avez un système de multisite, il vaut mieux passer par un seul prestataire plutôt que de les multiplier?
Alors, j'aurais tendance à dire qu'il faut, la première étape, c'est pas forcément de généraliser les audits partout. C'est déjà étudier comment les factures. Regarder et de prioriser derrière les sites. C'est-à-dire qu'on parlait de priorisation des actions de performance énergétique. On va peut-être prioriser aussi les sites sur lesquels ils sont les plus consommateurs et sur lesquels on voit qu'il y a des actions. Ça peut être une action de la direction immobilière du client qui va avoir cette approche-là et après qui va cibler. Ça sera le plus approprié.
Et même si on intervient tant que le CERS et FEDEN, on essaye d'être le plus neutre possible. Il y a deux types d'approches. Vous avez des clients qui veulent une neutralité, c'est-à-dire qu'ils vont commander un audit à un ou plusieurs prestataires. Il vaut mieux qu'ils en prennent un. Et dans ce cas-là, la donnée est publique et ils vont consulter derrière sur la mise en place des APE que l'audit aura décidé. Et il y a d'autres clients, tertiaires ou industriels ou habitat, qui préfèrent avoir une prestation complète, c'est-à-dire que la société qui va faire l'audit va réaliser soit l'exploitation, soit les travaux. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de bien faire au plus vite et au plus vite ces audits, c'est d'être conscient de c'est quoi les grandes masses de ma consommation, c'est de la clim, de l'éclairage, j'ai un process qui consomme et qui est en gaz et j'ai un risque là-dessus, c'est d'avoir quand même la loi de Pareto de ces consommations, parce que ça c'est presque au client d'avoir ça en tête pour faire les économies, de mesurer. si on ne mesure pas, on n'arrivera pas à faire les actions. Et comme le dit Patrick, et là, on est totalement neutre, mais rien n'est pire que de faire une action et ne pas mesurer et de ne pas la suivre dans la durée parce qu'on n'aura pas la performance attendue.
Alors, je vois pas d'autres questions dans le chat, mais moi j'en ai une parce qu'on a parlé financement un peu rapidement peut-être. Peut-être un peu indiquer quels sont est-ce qu'il y a des aides qu'on peut mobiliser, est-ce qu'il y a des outils ou des réflexes qu'il faut avoir pour bien financer aussi ces travaux. La sobriété, on l'a vu, c'est des gestes, c'est facile à engager et c'est peu d'investissement au final. Mais si on veut aller plus loin, comment on peut aussi identifier ce sujet du financement?
Pardon, excuse-moi, hein, j'ai pas le bon réflexe à chaque fois. Sur le financement, il y a plein d'aides qui sont données. C'est même des fois un peu compliqué pour savoir à quoi j'ai droit et quel guichet, vers où je me dirige après derrière. Donc, il y a le mécanisme de C2E qui est accessible à tout le monde, donc qui peut payer même du geste, je dirais. On a des C2E pour des contrats d'exploitation, je dirais, après derrière, je dirais, qui donnent une forme de bonification aux travaux qui sont réalisés. Donc vous avez ce système-là. Vous avez après derrière tous les systèmes qui sont mis en place par l'ADEME et ils sont très nombreux. Je vous encourage à aller sur le site de l'ADEME et de regarder au niveau de leur portail. Vous avez sur plein d'APE, plein d'appels d'offres et des tas d'explications après derrière. Si vous êtes plutôt du bâtiment après derrière, c'est vrai que c'est un petit peu plus limité, en particulier pour le tertiaire privé. Puisque le tertiaire privé, à l'heure actuelle, il est soumis au décret tertiaire et donc il a des objectifs pour 2030. On discute en ce moment avec le ministère pour essayer de mettre en place un espèce de fonds d'amorçage pour aider et pour anticiper, je dirais, cette échéance de 2030 sur les bâtiments. Et puis, vous avez nous, je dirais, autour de la table là, on est prêts, au travers de nos contrats, à assurer du financement de nos opérations. Quand vous regardez les appels d'offres sur la partie décarbonation ou énergie verte, en ce moment, vous verrez qu'il y a beaucoup d'adhérents du CERS et de la FEDEN qui répondent aux appels d'offres pour le compte des industriels, pour des chaufferies biomasse, pour des pompes à chaleur, pour la récupération d'énergie fatale, etc. On est prêts, nous, à jouer ce rôle de tiers financement au niveau des sociétés de services efficaces énergétiques après derrière. Et vous avez là, il y a au début avril, une loi qui est passée sur le tiers financement pour les bâtiments publics sur lesquels on est en train de travailler. Il nous manque encore le décret d'application qui devrait être publié cet été et après derrière. Voilà, donc...
Je voulais juste peut-être Guillaume et Séverine, vous avez des éléments complémentaires sur justement comment mieux s'informer sur les aides. Côté ADEME, j'imagine qu'il y a des choses disponibles.
Oui, tout à fait. Je vous renverrai sur la plateforme Agir pour la transition. Que l'ADEME a développé et effectivement qui regroupe l'ensemble des aides et notamment le parcours sobriété que j'évoquais tout à l'heure, où on a le détail des aides à la fois sur la possibilité de financer des audits que j'évoquais un peu rapidement tout à l'heure et possiblement, comme l'évoquait la FEDEN tout à l'heure, la possibilité aussi de financer certains investissements, notamment dans le cadre du fonds chaleur. Donc pour moi, l'ensemble des aides se retrouvent sur la plateforme Agir pour la transition. Et effectivement, il y en a pas mal. Donc, à vous de trouver le bon dispositif qui correspond à votre besoin dans le cadre de votre projet.
On refera circuler ces informations de notre côté au réseau.
Et en complément, la question que vous avez soulevée, elle est vraiment clé parce qu'il va y avoir un gros appel d'air et un gros volume de travaux liés au décret tertiaire. Peu importe qu'on soit en valeur absolue ou en valeur relative, il va y avoir pas mal de travaux. On veut limiter la dépendance gaz, donc ça va faire de gros investissements aussi en industrie. Et donc, on a devant nous une montée en charge assez importante d'investissements. Donc, il va falloir trouver des solutions de financement. Il y a de l'argent. Il faut dissocier la partie privée et publique, parce que le public, ça pose d'autres problèmes. Et effectivement, il y a un décret qui est à venir. Et puis, il y aura des informations assez rapides sur des plateformes de financement mises à disposition des sociétés, donc ça il faudra peut-être communiquer à terme et ça vaut peut-être le coup de faire un thème dédié au financement et aux aides parce que c'est le moyen de déclencher les travaux qui tout de suite ramèneront de l'efficacité énergétique sans gréver trop les budgets des sociétés en France. Voilà.
C'est noté. On a déjà parlé de ces deux œufs, etc., leur programme justement à disposition des entreprises lors d'un précédent webinaire, mais voilà, mais on... l'effet de répétition est toujours important. Et surtout sur ce dossier ou ce sujet où il faut être en capacité de mobiliser peut-être plusieurs aides. Bah, écoutez, je pense que c'est l'heure de vous remercier tous. Voilà, c'était rapide. Ça nécessite sans doute de se plonger un peu plus profondément maintenant dans la matière. Peut-être qu'une autre session sera nécessaire à un moment ou à un autre. Et bah, je vous souhaite à tous quand même un très bel été avec sobriété. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.